Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
En discussion avec vous ou en tête-à-tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
Paul Arcand, bonjour.
Bonjour.
Tu animes une émission du matin, si je ne me trompe pas, depuis 30 ans.
Et un peu plus.
Et un peu plus.
Ça a commencé avec la crise la crise autochtone.
OK. Puis c'est à ce moment-là qu'on t'a mis le matin pour te réveiller avec les auditeurs, en fait, réveiller les auditeurs.
Ouais,
pour quelle raison on t'a proposé ce poste-là?
C'est un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on est en pleine crise autochtone, donc c'est sûr que l'actualité est assez dominante. Et c'est Michel Baudry qui faisait l'émission du matin à ce moment-là, puis Michel, c'était un humoriste, puis c'était un ton là, complètement différent, puis Michel a décidé de quitter. Et durant l'été, il y avait une formule hybride un peu, information et humour. Et la direction a décidé de garder, compte tenu de l'actualité, le créneau.
Plus sérieux.
Plus sérieux, plus talk radio, plus... on me l'a offert. J'étais dans la périphérie, j'ai travaillé avec Michel, j'ai fait l'émission du retour, j'ai fait ce qu'on appelait l'émission pré-matinale, à 5 heures du matin. Puis ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé au mois d'août, puis depuis ce temps-là, je continue.
Est-ce que tu t'es toujours senti à l'aise dans cette position-là, notamment quand tu as commencé?
Comme animateur du matin?
Ouais.
Pas vraiment, parce que je suis pas d'abord, c'était pas dans mes plans. Là. Moi, je suis un journaliste d'abord et avant tout. J'étais un gars de radio, je pense, mais j'avais pas un plan en disant je rêve un jour de faire l'émission du matin ou pas en tout. C'est arrivé comme ça, puis ça prend un changement dans ta façon de voir le métier. Quand t'es journaliste, puis que, je sais pas, tu fais du reportage ou que tu lis des bulletins de nouvelles, il y a un certain code à respecter. La radio matinale, faut que t'ajustes un peu le ton. Et ça m'a pris bien des années pour l'ajuster.
Dans quel sens?
Dans le sens que on peut pas... Tu sais, d'abord, on est tu finis par comprendre que les gens, les êtres humains ne sont pas unidisciplinaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Je suis pas juste un intervieweur. Je suis pas juste quelqu'un qui va m'accrocher avec un invité qui veut pas répondre. Puis je suis pas juste quelqu'un non plus qui a envie de déconner tout le temps. C'est un mélange. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de créer avec toi un environnement qui fait en sorte que les gens avec qui tu te retrouves chaque matin, d'abord, ont envie d'être là, puis embarquent un peu dans ta folie. Fait que c'est un peu ça. Mais tout ça, là, ça se fait avec la maturité, ça se fait avec l'expérience, au gré des changements de station que j'ai fait, puis au gré des événements, et puis c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu aimes de l'animation au matin?
Moi, je dirais ça, c'est une espèce de... C'est un drôle de sentiment, à la base. Quand tu viens travailler, d'abord, la ville dort, pour l'essentiel, et toi, tu sais déjà ce que tu as envie de faire, ce qui est déjà prévu, puis ce que l'actualité vient de t'imposer parce que tu as lu les journaux, les nouvelles sont sorties, puis bon. Et tu prépares tout ça pendant que la ville dort. C'est comme préparer à déjeuner pendant que les membres de ta famille roupillent. Et ça, c'est un premier sentiment agréable. Le deuxième, c'est d'avoir l'avantage le matin d'être une bonne équipe, d'avoir des gens, puis d'avoir des moyens. Quand je dis moyens, c'est pas illimité, là, mais de pouvoir réaliser un certain nombre de rêves, que ce soit de collaborateurs ou que ce soit, je sais pas, de faire appel à l'étranger, par exemple, quand l'événement le justifie. Puis de développer dans tout ça, comme je disais, une formule mixte. Et c'est d'essayer de dire aux gens, je suis capable d'être quelqu'un de coriace là, en entrevue, je peux être sérieux, je peux être fatigant même, là. mais je suis en même temps quelqu'un qui a le goût de s'amuser aussi avec mes collègues, mes camarades qui sont devenus au fil du temps des amis. Fait que c'est ça qui est... C'est de travailler dans cet environnement-là. Parce que si t'as pas ce plaisir, c'est vrai pour moi puis c'est vrai pour les autres membres de l'équipe, tu te lèves pas à 3h du matin là pour le t'sais, pour venir juste chercher une paye, là, ça, ça peut pas arriver, je pense.
Non, parce qu'il y a il y a une espèce de reconnaissance du titre d'animateur du matin qui peut être très séduisant pour plusieurs personnes, ouais, de dire, oh, on, ouais, m'offre, comme on dit, le morning. Mais c'est pas une bonne raison pour l'accepter, ce poste-là.
Non, puis c'est, non, parce que une fois que tu l'as accepté, ben là, faut que tu livres. Puis c'est tous les jours. Puis quand t'as terminé, ben faut que tu penses au lendemain, puis c'est 40 quelques semaines dans l'année. Fait que non, c'est pas juste le prestige ou le salaire ou c'est il faut que tu aies envie de faire ça. Puis pour avoir envie vraiment, ben c'est pas une affaire solo, tu le fais avec les gens qui sont avec toi.
Paul Arcand est l'animateur le plus écouté partout au Canada. Au dernier résultat de sondage printemps 2023, vous avez eu des résultats spectaculaires avec l'émission Puisqu'il faut se lever. Et il y a le chroniqueur Mario Girard qui a écrit dans la presse à ce moment-là. Paul Arcand, avec Puisqu'il faut se lever, demeure l'empereur incontestable. Et là, il a mis entre parenthèses, il doit être tanné du titre de roi en obtenant 37,7% de part d'audience. Es-tu tanné du titre de roi?
Ben, d'abord, je comprends l'image, là. Je suis pas fou, là, mais je m'arrête pas beaucoup à ça. Je suis pas quelqu'un qui... comment je te dirais? Je suis absent beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, je suis pas quelqu'un là dont je fais pas beaucoup de mondanité. Je refuse la plupart des invitations de télé parce que je suis pas quelqu'un. Moi, ce sont les sujets, les individus que j'aime mettre en évidence. Il y a quelqu'un qui m'a offert d'écrire un livre, puis j'ai dit ben j'ai pas grand chose à dire. Parce que ça me tente pas de j'ai pas envie puis j'aime pas ça être le sujet. Et donc quand quelqu'un m'appelle le roi des ondes, puis je comprends là, c'est vrai qu'on a des bons résultats, c'est vrai que quand vous regardez le résultat de l'émission du matin parmi l'ensemble des émissions dans les marchés canadiens, c'est vrai qu'on est numéro un, on n'est pas entendu ailleurs au Canada, mais il y a un Morning de Toronto qui nous a battus une fois, puis bon, en termes de...
Mais c'est ça qui est fou parce que c'est un petit marché, c'est le marché francophone.
De Montréal.
De Montréal, oui, absolument. Qui arrive numéro un au Canada.
Mais ce que ça montre, c'est que, puis c'est plate à dire, là, mais la radio musicale va pas bien et que la radio parlée, puis là, je combine ce qu'on fait ici à 98.5, puis ce que Radio-Canada fait, c'est qu'il y a un goût chez l'auditeur de consommer de la radio parlée. Certains disent la radio de personnalité. Là. Moi, j'aime mieux dire de la radio parlée, c'est-à-dire qu'on se parle. Le fait qu'on soit en français nous aide beaucoup, je pense, parce que il y a moins d'offres en français. Mais c'est sûr que pour les stations musicales, c'est un joyeux casse-tête actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait que des gens vont aller écouter des stations là, qui ont été des joueurs majeurs là, depuis quelques années? Là, ce sont des changements. Puis pas certain qu'on aurait pu prévoir ce qu'on vit actuellement.
D'ailleurs, tu quittes l'émission du matin à l'animation en juin 2024. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu quittes une radio en santé?
Je pense que je quitte un univers qui est relativement en santé. Je pense que les enjeux sont toujours là, mais ça a toujours été ça. La radio, depuis toujours, c'est comme si on avait un diagnostic de fin de vie, là, puis ça s'est avéré faux la plupart du temps, puis tout le temps même, c'est-à-dire. Je regardais le niveau de fréquentation, puis l'écoute par rapport à l'exemple, le lectorat des journaux, la télé. Puis la radio s'en sort encore assez bien. Oui, il y a des pertes, là, mais de façon générale, ça va assez bien. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que la méthodologie, puis là, je me plains pas des sondages, là. Je serais mal placé à maudit. Mais je trouve que la méthodologie ne tient pas compte des autres façons que les gens écoutent. Que ce soit des balados, que ce soit par le web. C'est encore, puis c'est très limité. Et ça donne pas un portrait réel de la consommation.
Parce que ça me fait penser, ta revue de presse, le matin, est écoutée par beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Elle est assez tôt dans l'émission. Ouais. Le nombre de personnes qui me disent, moi, je me réveille et je vais chercher la revue de presse de Paul Arcand. Il peut être rendu 7h30, il peut être rendu 8h le matin.
Mais ça, c'est pas
comptabilisé.
Non.
Alors, c'est vrai. Puis, je suis curieuse de savoir, la radio dans 20 ans, ça va avoir l'air de quoi, à ton avis?
Je sais pas. Est-ce que ça va être encore le support actuel? peut-être pas. Est-ce qu'on va se retrouver essentiellement en streaming là ou je sais pas trop. J'aurais quand j'ai commencé à faire de la radio, jamais j'aurais pensé faire de la radio parlée sur le FM. Jamais. Parce que c'était de la musique, c'était comme oublie ça là, tu ne te sers pas de la qualité sonore pour jaser, tu mets de la musique. Puis là aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Mais moi je pense qu'il y aura toujours de la place, peu importe le support là, pour le contenu. Puis je sais que quand je dis ça, j'ai ma foule d'admirateurs qui vont dire que les merdias, c'est ci, puis c'est ça, puis qu'on
et
est
là, ouais.
C'est bon. Mais je persiste à dire et à croire que il y a un besoin de contenu. Et les podcasts, les balados, le montrent. Moi, je le vois quand j'en consomme, que ce soit une revue de presse, par exemple, du New York Times, que ce soit des trucs sur France Inter. C'est pas de la radio pure, là, traditionnelle, dans le sens du terme, mais c'est quand même, c'est du contenu.
Ouais.
Et ce contenu-là, il va être nécessaire. Puis pour que ça soit fait correctement, je dis pas dit uniquement, ben ça prend des gens dont c'est le métier. Puis
ça doit être
ça.
Encadré.
Ben
ah
voilà.
Oui. Ouais. C'est ça le plus grand risque de dérapage. Je l'observe aussi. D'ailleurs, parlant de contenu, j'ai envie de parler d'un thème qui, j'ai l'impression, t'interpelle beaucoup. Il s'agit des droits des enfants,
ouais.
Parce que t'es aussi documentariste. T'as fait un documentaire en 2005 qui s'appelait « Les voleurs d'enfance ». Récemment, au courant de la dernière année, t'as sorti « Les collectionneurs d'enfants ». J'ai vu la série, c'est frappant, c'est incroyable. D'où vient cet intérêt, justement, pour les enfants? Parce que j'ai l'impression que ça tient vraiment beaucoup à cœur.
Ça s'est développé. D'abord, si je prends le projet initial, Les voleurs d'enfance, c'est Denise Robert, la productrice qui m'a approché, qui m'a appelé. Puis je suis allé prendre un café avec elle, puis elle m'explique que à ce moment-là, elle faisait elle préparait le film Aurore, la fiction.
Okay.
Et que il y a des gens qui lui ont dit OK, Aurore, c'est bien beau, là, mais pourquoi remonter dans le temps? Pourquoi vous parlez pas de ce que vivent les enfants aujourd'hui? Puis au début, c'était comme qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ben, des enfants abusés, des enfants maltraités, ça existe encore. Puis j'avais fait quand même, soit à la télé ou à la radio, un certain nombre d'entrevues là-dessus. Puis déjà là, j'avais, c'est sûr, une préoccupation, puis un intérêt. J'avais moi-même des enfants. Puis tu peux pas t'imaginer que des gens puissent faire du mal à des enfants. Puis quand tu te rends compte que oui, ça arrive, puis que oui, ça existe, ben c'est sûr que, un, ça t'interpelle. Donc, Denise m'approche, puis je dis, écoute, je dis, moi, j'ai jamais fait ça, là, du cinéma, puis de... Je suis un journaliste, mais bon, elle dit, ouais, mais. Elle dit, on va t'aider, tout ça. Puis Denis Arcan m'avait dit, avec qui j'ai un lointain lien de parenté, m'avait dit, tu sais, c'est pas si compliqué que ça, là. Tu pars avec ton équipe, avec une caméra, puis tu fais le tour, tu regardes, tu me ramènes des images, et à la fin, tu me dis ce qui est important, ce que je dois savoir. Puis j'ai toujours retenu cette phrase-là, parce que c'est exactement ça. Fait que donc, je l'ai fait. Ça a créé pas mal de vagues. Et par la suite, ben, tu passes un an et demi à travailler un sujet, la DPJ, les enfants maltraités. Tu ne mets pas de côté après, là. C'est pas, on passe un autre appel. Et souvent, l'actualité, bon, ben, nous ramène malheureusement des cas. Alors, j'ai toujours gardé cet intérêt, puis je trouve que c'est important que des gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de syndicats, qui n'ont pas de lobby professionnel, qui sont pas un groupe de pression, là, qui représentent pas un groupe de pression, ben qu'on puisse les aider à se faire entendre. Et c'est un peu ça que j'ai voulu faire. Puis en même temps, avec l'autre série, Les collectionneurs, c'était de montrer cette espèce de vulnérabilité. Moi, à l'époque, Les voleurs d'enfance, là, c'était la famille immédiate ou encore des inconnus, c'était direct, là. Là, aujourd'hui, comme on dit, t'allumes ton ordinateur et le prédateur, il peut entrer en contact.
Ben,
là,
c'est ça.
Là.
Parce qu'entre 2005, à l'époque des voleurs d'enfance, versus aujourd'hui, 2023, les réseaux sociaux ont explosé,
exact.
Internet, puis les abus d'enfants aussi, puis justement de personnes de l'extérieur. J'ai un extrait des collectionneurs, okay. d'enfants.
Tu vas me montrer une belle paire de cuisses, qu'elle ait 50 ans ou qu'elle ait 8 ans. Si je trouve que c'est une belle paire de cuisses, moi, je dis que c'est une belle paire de cuisses. Tu sais, je la trouve belle.
Avez-vous déjà tenté de passer à l'acte? C'est-à-dire, au-delà des photos, là, cibler un enfant puis agresser sexuellement un enfant?
À ma connaissance, non. À ma connaissance, j'ai jamais agressé l'enfant.
Mais comment vous dites à ma connaissance?
Ben, c'est parce que je buvais beaucoup. Est-ce que j'ai fait des affaires que je devais pas? Ma fille a levé une plainte contre moi. Mais ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais touché à ma fille. Jamais, jamais. J'adore ma fille.
Mais sous, vous l'avez peut-être fait.
J'espère que non.
C'est un moment troublant du premier épisode de la série. C'est un moment où tu échanges avec un homme qui a plaidé coupable pour avoir agressé sa fille. Et là, bon, on entend tout cet échange où il plaide coupable. C'est une question que tu lui poses. T'as plaidé coupable, mais tu dis que t'as pas posé le geste. C'est comment de se retrouver devant quelqu'un comme ça en entrevue?
C'est-à-dire que le choix, c'est quand on fait une série comme celle-là, puis il faut y réfléchir, là. On le fait ou on le fait pas. Ça, c'est la première chose. Si on le fait, ben, on veut illustrer le phénomène. Et des prédateurs, comme celui qu'on vient d'entendre, ben, ça existe. Et je pense que c'est important de voir comment ces gens-là peuvent manipuler, comment ils peuvent se justifier jusqu'à un certain point, jouer où c'est la victime, voir comment ces émotions-là s'expriment. Puis tu sais, dans le fond, j'avais le choix, là. Je le fais pas. Deux, je le fais, mais je l'engueule, puis c'est sûr que c'est dégoûtant, là, puis je travaillais avec une équipe, là, puis c'était des mères, des filles qui étaient là, puis qui sursautaient à chaque fois, là. Mais si c'est pour faire un show, je le fais pas. Fait que l'idée, c'est pas de le laisser dire n'importe quoi, mais l'idée, c'est parle-moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis que t'as pas fait ça? Mais en même temps, tu l'as peut-être fait. Puis pourquoi tu plaides coupable? Ah, je plaide coupable parce que je t'ai tanné. C'est ça que je veux montrer. Je veux montrer. Puis j'en ai fait d'autres prédateurs, des plus jeunes. D'autres, je me souviens, à la prison de Percé, il y en avait un, c'était un gars qui avait quoi, dans la vingtaine. Tu le vois, là, qui a de la misère à s'exprimer, qui vient d'un milieu rural, probablement très isolé.
Pas privilégié.
Non. Puis qui a leurré des filles de 14 ou 15 ou 16 ans alors qu'il avait 21. Puis que là, il est allé à cette prison parce qu'il y a une formation puis un programme qui les aide pour revenir en société. Puis là, je dis pas que c'est correct ce qu'il a fait, mais lui, tu le regardes, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Là, c'était écrit dans le ciel, puis peut-être qu'il va recommencer. Fait que t'es moins choqué, t'essayes de dire « ouais ». Mais d'autres, oui, deux, trois fois, j'avais envie de me lever et sacrer mon camp. Puis c'est pas la première fois, j'avais fait un gars en prison à la Macasa pour des voleurs d'enfance, puis je suis sorti deux fois parce que j'étais plus capable. Tu sais, à un moment donné, ça vient te chercher, là. Surtout cette espèce de mentalité. Tu sais, je me souviens de celui de la Macasa, il me disait « ouais, mais je fais pas mal parce que quand il est d'accord... » Puis quand il me dit non, là, je continue
respecte.
Pas. Je respecte le non. Mm. Là, tu dis « excuse, mais c'était un enfant de 6 ans. »
C'est une responsabilité, une compréhension ouais. différente de l'enfant. Mm-hmm. Comment tu arrives à les convaincre, ces personnes-là, de te parler? Je veux dire, ils savent qui est Paul Arcand. Ils savent qu'ils s'attendent pas à avoir une entrevue complaisante non plus. Pourquoi ils acceptent? Comment tu les trouves?
Je sais pas. Dans le cas des collectionneurs d'enfants, concours de circonstances. Des fois, tu pars à la recherche de quelqu'un, puis tu rencontres d'autres personnes, puis d'autres personnes te mettent en contact. Puis tu leur dis, je veux vous interviewer, puis c'est dans le cadre de tel documentaire. Puis racontez-moi ce que vous avez fait, puis votre expérience. Pourquoi ils acceptent? Écoute.
C'est thérapeutique pour eux?
Je sais pas. Dans le cas de la prison de Percé, c'est qu'on avait, comme on connaissait l'existence du programme, on a demandé aux gens des services correctionnels de nous mettre en contact avec des prisonniers qui étaient en fin de parcours, là, qui avaient suivi la thérapie, si on veut. Dans ce cas-là, ce sont eux, ils se font offrir, voulez-vous participer à une série qui raconte ce genre d'histoire-là? Puis eux, on dit oui. Mais tu sais, pourquoi des abuseurs veulent parler? Pourquoi des victimes acceptent? On n'est pas au procès, là. On n'est pas... comme j'ai dit au gars, j'ai dit, OK, c'est pas un procès, mais tu sais, compte-moi pas des histoires pareilles, là. Puis une victime aussi qui revit tout ça, là. Puis on essaie de le faire toujours avec le plus grand respect. Je pense que dans le cas des victimes, il y a ce besoin de dire, je vais raconter ce qui m'est arrivé pour aider d'autres personnes. Il y avait cette adolescente qui avait... commencé à se faire leurrer par un gars qui est en France puis qui a fait beaucoup de victimes au Québec. Puis elle a eu le bonheur, je dirais, d'avoir des parents qui l'ont aidé, puis qu'il y avait un lien de confiance qui a fait qu'elle est allée se confier, puis que la plainte, par la suite, a permis l'arrestation. Mais je pense que ça, c'est clairement une volonté des victimes de pouvoir aider pour éviter que d'autres soient piégés.
D'ailleurs, c'est ce que ça arrive souvent qu'il y a des personnes qui te contactent, qui te disent « j'ai envie de te raconter mon histoire », justement pour aider d'autres personnes, des histoires qui sont difficiles. Ça arrive souvent.
Ça arrive à la radio. Puis des fois, pour montrer une situation, il n'y a pas si longtemps, tout l'enjeu de la santé mentale chez les jeunes adultes qui vivent encore avec leurs parents ou en tout cas qui sont dépendants de leurs parents quand ils arrivent à la vingtaine. Bon, puis on avait raconté 2-3 cas où c'est extrêmement difficile que à un point tel que t'avais la mère par exemple qui avait peur de son fils, qui barrait les portes, qui faisait l'objet de chantage. Et puis qui était découragé parce que le système judiciaire, on peut pas facilement aller chercher des ordonnances, on peut pas soigner de force quelqu'un là, de façon générale qui veut pas. Et il y avait une auditrice qui m'avait écrit pour me dire j'ai vécu ça, mais aujourd'hui ça va bien. Puis je voudrais témoigner pour vous raconter mon histoire, mais cette histoire-là va donner un peu de courage peut-être à des gens. Fait que ça c'est un exemple récent. Puis il y en a d'autres qui disent voici ce que j'ai vécu. Puis quand à chaque fois qu'il y a une série comme celle-là qui devient publique ou un film, c'est sûr que ça génère évidemment beaucoup de témoignages.
Donc les auditeurs, les gens qui te regardent te nourrissent beaucoup.
Oui.
Toi aussi, tu nourris d'une certaine manière certaines personnes, dont Luc Dionne,
oui.
Auteur notamment de la célèbre série District 31 que tu as adoré. Mm-hmm. Je pense que tu étais vraiment accro là, à District 31.
Ah, absolument, totalement. C'était ma je dirais ma pause du jour.
Puis c'est drôle parce qu'on se dit toujours, Paul Arcand est probablement une des personnes les plus occupées en ville au Québec. Je me disais que tu prennes le temps quand même, c'est un engagement de regarder une quotidienne tous les jours.
Oui, mais on a besoin tu sais, il faut à un moment donné faire une pause parce que c'est une question d'équilibre mental aussi. Puis bon, c'est sûr que je me lève tôt, mais je me couche tôt, puis on travaille beaucoup toute la journée. Mais arrivait ce moment où tu dis, OK, là, ça dure 20 quelques minutes, là, si t'enlèves la pub, là, 23, 24, puis j'ai dit, puis tu deviens accro. Puis Luc, c'est un ami depuis longtemps, puis j'ai accroché tout de suite, puis Gildor, puis bon, enfin. Fait que oui, c'est un moment de liberté et de paix.
J'ai discuté avec Luc Dionne en vue de l'entrevue avec toi. Je lui ai demandé à quel point toi, Paul Arcand, a peut-être pu inspirer son travail d'écriture.
Des fois, il passe des invités, puis bon, il parle de certains sujets, et là, ça peut m'interpeller, puis je me dis, ça, on pourrait peut-être parler de ça, puis aller plus en profondeur. Ça, c'était un. Deux, évidemment, je me suis servi de certains traits de caractère de Paul pour les accoler au personnage de Daniel Chiasson, surtout quand il rentre en bougonnant le matin. Ça, je trouve qu'ils se ressemblaient les deux. La façon qu'ils ont d'exprimer leur idée, tu sais, c'est assez clair, c'est toujours tranché, c'est noir, blanc, peut-être gris à l'occasion, mais juste une teinte de gris, il n'y en a pas 52 teintes de gris. Là. Ça me faisait toujours un petit velours, parce que Paul, souvent le matin, quand il essayait d'appuyer des propos, il prenait une petite partie du commandant Chiasson ou des personnages, puis il faisait jouer ça à la radio. En fait, c'était une espèce de synchronicité à l'époque, ce qui se passait au SPVM, mais Paul prenait souvent des extraits de District 31 pour dire « ben voilà ce qui va se passer
». C'est fou à quel point il y avait des connexions. Hein?
C'était incroyable. Surtout au début, là, les premières saisons. Là. Puis tu sais, moi je suis dans l'actualité. Puis là, j'appelais Luc, je disais « coudonc, le DPCP, puis t'as pris ça. Comment ça se fait que, tu sais, une coïncidence, ça peut arriver ?» Mais disons qu'il y en avait beaucoup. Et moi, je l'explique par la grande connaissance que Luc a du système. Puis bon, il parlait à toutes sortes de monde aussi, là. Fait que, oui, il a ce talent d'écriture, là, puis d'anticiper les choses, mais il était en plus synchro. Écoute, t'écoutais un épisode le mardi, puis il y avait eu un événement dans la journée, t'as l'impression qu'il l'avait écrit, tourné, diffusé deux heures avant.
Est-ce que tu savais que t'avais inspiré un peu son personnage du commandant Chiasson?
Gildor m'avait dit ça. À Luc plus tard, mais Gildor, ouais, il m'avait dit ça. Il était venu en entrevue, je pense, au tout début de District 31. Puis il me dit, bon, il dit, prépare, hein, il décrit un peu le personnage. Puis il dit, il y a quelqu'un qui m'a inspiré. Je dis, ah ouais. Puis il dit, c'est toi. Je dis, ah bon, OK, correct. C'est correct.
Toi, est-ce que tu le sens quand tu le vois? comme personnage?
C'est dur à dire, hein? Je pense que s'observer... D'abord, je suis pas bougon tout le temps. Mais il y avait un côté très humain. Je sais pas si c'est... Mais ça doit pas ce bout-là dont tu t'es inspiré.
Oh non, non, je pense qu'il y a beaucoup de lieux communs aussi. Le côté humain, la compréhension. J'ai pas pris tout l'extrait, là, mais il avait fait un bon 5 minutes sur l'inspiration.
Ouais, ben en tout cas, mais c'était... Mais Gildor, je connais depuis longtemps aussi, puis... Mais c'est, ouais, c'était quand même amusant.
Mais c'est drôle, tu viens de dire, tu sais, je suis pas toujours bougon.
Non, non,
je Luc pas... Dionne m'a parlé de ton sens de l'humour.
C'est quelqu'un qui est drôle, qui est... Puis il y a un peu mon genre d'humour. Tu sais, c'est un humour caustique un peu. Il pince sans rire. Moi, j'adore ça, là, avec ses petits jeux de mots. Puis quand il part dans une entrevue aussi, puis... Il veut te faire sentir qu'il croit pas tellement ce que tu dis, là. C'est ça. C'est pas l'arcane. C'est pas pour rien qu'il est numéro un le matin, hein. Quand t'es numéro un, c'est parce que le monde t'écoute. Puis quand le monde t'écoute, c'est parce qu'il t'aime. Tu sais, lui, c'est encore pire qu'une quotidienne, là. Il rentre chez vous le matin. Moi, je le connaissais pas encore. J'appelais pas le gros comme le bras, t'sais. C'est sûr, il est assis devant moi puis il parle pendant que je mange mes céréales, tu sais. Puis je m'obstine avec des fois, tu sais. Il est en onde, je parlais à ma radio. J'avais l'air intelligent avec mes céréales. Mais voyons, qu'est-ce que tu dis là matin, puis il fait partie de la famille pour bien des gens. Tu sais, tu l'as dans les oreilles en te levant le matin, puis dans la voiture.
Je trouve qu'il décrit tellement bien le genre de relation que tu as développé avec les auditeurs au fil des ans. C'est vrai, tu sais, je mange mes céréales, je t'écoute, je m'obstine avec toi, je m'obstine avec la radio.
Oui, oui, mais tu sais, c'est dur pour l'animateur de se mettre ça dans la tête. Tu sais, parce que c'est une image qui est très réelle, parce que je me le fais dire. Je me souviens quand les premières années, je partais en vacances, puis au bout de 2 semaines, je croisais un auditeur, une auditrice sur la rue qui disait « Coudon, ça achève-tu, là? » Tu sais, oui, oui, oui. Et puis la radio, c'est très personnalisé. Puis le matin, peut-être une coche de plus. Parce que là, puis... Faut pas trop dévier là de l'horaire, puis là je suis un peu plus délinquant, mais ouais, mais là l'énigme faut que ça soit à telle heure, parce que sinon moi je manque parce que je suis rendu au travail ou bon. Mais c'est vrai, puis ce qui est encore plus particulier, c'est que j'ai commencé en 90 à faire ça le matin. Puis je croise ou je reçois des courriels de jeunes adultes dont les parents m'ont imposé dans l'auto ou dans la cuisine, puis qui sont devenus comme la deuxième génération d'auditeurs. Ça, je t'avoue que c'est space, là. Là, tu te dis, wow, t'es un peu, là. Puis c'est très drôle, là. Puis là, ils me font, mon enfant de 3 ans vous écoute, puis je reçois des vidéos, des fois, d'enfants qui ont 4-5 ans, puis qui disent mon nom, là. C'est assez particulier.
Aïe, aïe.
Ouais, ouais.
J'avais même entendu, en t'écoutant il y a quelques semaines, qu'il y a un chat qui porte ton nom.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que les gens osent aller te voir sur la rue?
Je vais te dire, très honnêtement, quand je suis tout seul.
OK.
Oui. La plupart du temps, là, il y a des gens qui vont juste, tu sais, ils vont me reconnaître, puis après ça, ils vont être gênés, puis bon. Quand vraiment, là, tu sais, je vais faire l'épicerie tout seul ou, je sais pas, là, je marche sur la rue... Je te dirais que la plupart des gens sont m'interpellent, puis sont super corrects, là, dans 97%. Quand je suis avec ma femme, ma blonde.
Il y a une différence.
Il y a une distance.
Les gens ne t'approchent pas.
Beaucoup moins.
Pour quelle raison?
Je sais pas, ils veulent pas déranger, ben, peut-être, là. Puis les gens, je te le dis, sont très respectueux. On va être assis au restaurant, puis la table à côté. Tu sais, moi, je parle avec ma conjointe, puis eux, ils parlent en vrai. Puis comme on termine le repas, ben là, ils vont nous parler en disant, ben, on voulait pas vous déranger pendant. Puis, mais en même temps, bon. Mais c'est vrai que c'est un peu mon garde du corps. C'est comme, ça met un frein. Tu sais, on n'ira pas les déranger, on parlera pas, puis...
Parce que
mais moi, ça me dérange pas, c'est au contraire, c'est quand les gens sont gentils. Je parle pas des gens agressifs.
Parce
là.
Que ça arrive aussi, ça, des fois?
Rarement, très rarement. Je peux me faire klaxonner puis un finger, là, mais oui, oui.
Ça t'est déjà arrivé, ça?
Oui, oui, puis un cocher de Montréal, entre autres, sur une calèche.
Hein?
Ben, moi, je trouvais que les calèches dans le Vieux-Montréal, ça n'avait pas de bon sens. Puis un jour, j'étais avec Fabrice de Pierrebourg, justement, on sortait d'un tournage, puis je pense que le monsieur était pas content de me voir.
Et il te l'a fait sentir?
Certainement.
OK. Fait que ça arrive
ça
aussi,
arrive,
la
mais
majorité...
rarement, rarement, très rarement.
Parce que je te posais cette question-là, parce que t'es un monument, tu le sais. Non, mais il y a quelque chose, une aura autour de toi qui peut peut-être intimider certaines personnes, pas volontairement,
non.
Et se dire c'est pas l'arcan. Il y a quelque chose de très très impressionnant. Donc je me demandais si les gens osaient aller te parler.
Ah non, mais comme je te disais, il y a cette proximité aussi. Puis moi je trouve ça, tu sais, j'ai jamais retourné quelqu'un là, vous me dérangez, je suis pas le genre du tout là. Si une journée je n'ai pas envie de voir personne, ben je sors pas. Mais moi, j'accepte d'être dans la sphère publique, de gagner ma vie comme ça, puis c'est normal le retour. Les gens qui viennent te parler, ils le font de bon cœur, ils sont contents pour la plupart, puis ils ont envie d'avoir cet échange-là, une photo, d'avoir, bon, puis c'est super correct. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis je le sais que, tu sais, je suis pas un chanteur de charme, là, je veux dire, je suis pas, tu sais, je suis pas une rockstar, puis c'est pas ça, là, tu sais, où tu t'arraches, puis bon. Mais je suis leur chum du matin depuis tellement longtemps qu'ils ont le goût de ce contact-là, puis moi, ça me fait plaisir.
Ben c'est ça, comme Luc Diane le disait, avant même de t'avoir rencontré, je l'appelais Paul gros comme le bras. Les gens ont l'impression de te connaître.
Ben, on se connaît depuis l'époque d'Omerta.
Ça
fait un petit bout, là.
Ah oui. D'ailleurs, j'ai demandé à Luc Diane si il y a quelque chose des fois qui vient titiller ou le déranger en contact avec toi, on le réécoute. Okay.
La chose que je trouve toujours un peu dommage avec Paul Arcand, c'est que je sais très bien qu'il en sait mille fois plus qu'il en dit. Puis c'est ça qui est plate, c'est que déjà je comprends, il est dans le cadre de son travail, il y a des endroits où il peut pas aller là, mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant de l'écouter parfois le matin puis de terminer avec un coup de téléphone dans le prix. Ben voyons, quand t'as dit ça, qu'est-ce que ça voulait dire là? Ben on s'amuse, on a beaucoup de plaisir ensemble.
Non, mais c'est... puis il va me dire, pourquoi tu l'as pas dit? J'ai dit, toi, t'es dans la fiction, mon Luc. Tu peux bien écrire à partir de la réalité puis pas mettre les vrais noms. Mais j'ai dit, moi, là... C'est parce que les mises en demeure, c'est agréable, mais ça a ses limites.
C'est ça, parce que t'es vraiment... C'est la rigueur dont on parle. Mais c'est vrai que tu dois connaître une foule d'informations. Est-ce que des fois, Colin, que t'auras envie là, de...
C'est sûr, mais plus? Est-ce que je connais beaucoup de potins? La réponse, c'est oui. Puis je cours pas après, puis est-ce que c'est vrai ou pas, puis sérieusement, ça, je m'en fous un peu. Est-ce qu'il y a des histoires que je pense connaître tous les éléments? Certainement. Mais est-ce que c'est démontrable, prouvable? Est-ce que j'ai les faits? Non. Quand je le sais, puis je suis capable de le prouver, je vais le dire. Quand je suis pas capable, des fois, je vais tourner autour, je vais essayer de poser des questions, des fois, quelqu'un s'échappe. Mais... c'est sûr que des fois, c'est frustrant. Tu sais, on a tous nos histoires, puis on dit, mais... Tu sais, il y a des ministres qui me disent des trucs, je sais que c'est pas vrai. Je le sais. Ou c'est alambiqué comme réponse.
Puis ça vient te chercher. On l'entend.
Ben, je t'avoue que je perds de plus en plus patience. Parce que... Puis c'est pas que je perds patience, là, pour... j'ai plus envie de leur parler. Tu sais, c'est plus ça. Il y a, au début, là, je me pinçais à mort, là. C'était comme, tu sais, secouais le pommier, là. Là, c'est comme, me prends-tu pour un cave? Est-ce que tu prends le public? Tu sais, si je te pose une question puis t'as décidé de commencer ta réponse par la phrase toute faite, mâchée par ton équipe, qui n'a rien à voir avec la question que je te pose, mais c'est une insulte. À moi, c'est pas grave, mais aux gens qui écoutent. De penser que le monde est assez imbécile pour boire ce que tu racontes comme du petit lait chaud, il y a quelque chose là-dedans qui je trouve méprisant. Puis, et c'est de plus en plus vrai. Et c'est pour ça que quand on arrive avec une femme politique, un homme politique qui a pas cette dernière langue de bois, on est comme décontenancé parce que puis on est débalancé du coudon.
Trouves-tu qu'on est dans la pire époque de la langue de bois? Vois-tu une évolution au courant des 30 dernières années sur la liberté qu'ont certaines personnes qui ont des postes au pouvoir?
C'est-à-dire que les politiciens ont toujours été des politiciens, puis bon, puis c'est correct, là, tu sais, je comprends qu'ils peuvent pas tout dire non plus, tu sais, moi je peux pas tout dire, eux peuvent pas tout dire, mais jusque là, ça va. Mais, je trouve qu'un des plus grands dangers, c'est l'omerta, justement, qu'on impose aux travailleurs de l'État, là, que ce soit des gens, par exemple, en éducation, en santé, puis je me rappelle l'agronome Louis Robert. T'sais, on a besoin de sonneurs d'alerte. On a besoin de gens qui, à l'intérieur, sont témoins de ce qui se passe. Je comprends qu'on a un devoir de loyauté avec l'employeur. Mais si tu n'es pas capable de corriger une situation dont tu es témoin, parce que les mécanismes sont compliqués, puis que tu te tournes vers les médias, mais la plupart du temps, c'est toujours la même mise en garde. Dites pas mon nom, j'ai peur de perdre ma job, je vais me faire suspendre. Puis moi, ça m'est arrivé, des gens qui m'ont écrit, qui ont eu... C'est-à-dire qu'ils ont fait l'erreur de prendre l'adresse du travail puis qui ont été suspendus.
Ils ont eu des conséquences.
Ben oui.
Oh.
Oui, c'est PVM. Puis je disais, mais non, mais trouve une autre adresse. Mais c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a, d'une part, cette capacité du gouvernement, de l'État là, en général, à contrôler au maximum ces affaires. Puis en parallèle, à avoir une loi d'accès à l'information qui est périmée, poussiéreuse, complexe, des délais, puis je te parle même pas du fédéral. Là. Le fédéral, ça n'a aucun... Tu sais, les gouvernements transparents, M. Trudeau, qui est... Je parle souvent avec Fabrice qui fait des demandes au ministère des Affaires étrangères, ça en est ridicule. Fait que, tu sais, d'un côté, là, disons que c'est difficile de faire la job.
Puis pour les auditeurs qui ne connaissent pas les rudiments, justement, du journalisme et tout, peux-tu leur dire en quoi c'est un danger, ça?
Ben, le plus grand des dangers... D'abord, le plus important, c'est d'en savoir le plus possible. Comme citoyen, avant de dire... Puis c'est pas juste voter, là, mais... T'as le droit d'être informé correctement. Puis pour être informé correctement, idéalement, il faut que tu aies plusieurs sources. Écouter plusieurs stations de radio, lisez plusieurs journaux, fréquenter plusieurs sites web, puis si vous avez le temps, puis accorder votre confiance à des gens que vous pensez corrects. Puis pour que ces gens-là puissent vous informer, ben il faut qu'on ait accès quand même à des choses. Des fois, c'est d'une banalité. Puis l'État rend ça complexe.
Mais quand on revient encore au droit du public à l'information, puis c'est ouais. Justement là où le rôle de journaliste, le rôle d'animateur est important.
Ben, moi, puis comme je dis, là, je sais qu'il y a un contre-courant à ça, là, que on cache la vérité, qu'on est à la solde des gouvernements, qu'on est payé par la CAQ. On l'entend, celle-là. Là. Mais bon, je pense que pour les gens qui adhèrent pas à ce Kool-Aid, il faut qu'ils se rendent compte que on joue, puis pas un individu, pas un média, mais assez collectivement, un contrepoids. Quand la presse, quand Québécois, Radio-Canada amorce des démarches devant les tribunaux pour faire lever des ordonnances de non-publication, c'est pas pour le plaisir, là, c'est pas pour rien. Là. Puis s'il y avait pas cette pression-là, est-ce qu'on souhaite qu'il y ait des procès? Il faut qu'il y en ait des ordonnances dans certains cas, les mineurs, les agressions sexuelles, on comprend tout ça. Mais il y a combien de gens qui souhaitent que ça se passe en douce, que ça soit pas connu? Je pense que ça fait partie des batailles à mener.
Paul Arcand, il te reste une année à l'animation de la matinale. Est-ce que tu dis que tu prends ta retraite?
Non.
T'appelles ça comment, toi?
Ben, d'abord, je pense que... arrive un moment... où, et c'est pas de me lever le matin. C'est comme, c'est dans mon ADN, là, c'est comme ma biorhythmie, là. C'est le poids d'une émission quotidienne que tu transportes toute la journée, puis même jusqu'en début de soirée, puis la fin de semaine, le dimanche. Et donc, de me lever, de venir faire l'émission, je suis encore, puis je vais avoir du plaisir jusqu'à la fin. Par contre, de porter tout ça arrive un moment où tu as moins l'énergie. D'une part. Puis j'ai envie de travailler encore, puis faire des projets, puis faire des trucs, puis de vraiment choisir. C'est pas que je choisis pas actuellement, mais c'est drôle, je parle à des gens qui ont le même âge que moi, puis qui disent, bon, ben là, on peut un peu plus choisir, on peut déterminer ça, ça m'intéresse pas. Plus jeune, tu vas essayer des affaires, ou tu le fais pour des raisons alimentaires, ou mais là, c'est ça. L'idée, et même moi, en travaillant moins, je travaille encore pas pire.
Ben, l'idée, ce que je comprends, c'est de libérer de l'espace
ouais.
dans ton horaire
ouais. Ouais.
pour réaliser autre chose.
Oui, puis tu sais, de pouvoir aller en vacances à une autre période de l'année que juillet.
D'ailleurs, là, c'est l'été. Tu fais quoi de ton été?
Je travaille un peu en parallèle sur des projets, puis je quitte à peu près 2 semaines, je m'en vais en Italie.
Mais bon voyage, Paul Arcand. Merci. Puis merci beaucoup de nous avoir accordé de ton précieux temps. Si je dis nous, je pense aux auditeurs, je pense à moi aussi, parce que effectivement, t'en accordes pas souvent des entrevues. C'est très généreux de ta part.
Ça fait vraiment plaisir. Salut, bon été.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.